Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI, TTSO Slate, qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
Bonjour Christophe.
Laurence, ces derniers jours, deux faits ont marqué l'actualité politique américaine. D'un côté, l'ouverture du procès de Trump, le 22 avril à New York, et de l'autre, le vote enfin de l'aide américaine à l'Ukraine par le Congrès, une aide attendue par les intéressés depuis des mois. Trump sur le banc des accusés, une loi refusée par des élus trumpistes mais qui passe quand même donc au Congrès. Est-ce que cela signale un affaiblissement du camp républicain? Comment ces derniers développements impactent-ils sa dynamique de campagne? On en parle aujourd'hui, Laurence.
Oui, Christophe, le procès de Trump dans l'affaire Stormy Daniels a vraiment commencé donc, vous le disiez, lundi 22 avril, avec les réquisitoires, les plaidoiries qui vont se succéder, les témoins, etc. La semaine dernière, à partir du 15 avril, on avait assisté à la sélection des 12 jurés pour ce procès qui devrait durer environ 6 semaines.
Rappelons que la sélection des jurés est quelque chose d'important dans les procès américains puisqu'ils déterminent souvent le verdict et qu'il y a une bataille d'avocats entre l'accusation et la défense pour composer le jury le plus favorable possible à son camp.
Oui, et dans ce cas-là, c'était des jurés qui venaient tous de Manhattan, donc a priori anti-Trump. Les avocats de ce dernier ont donc été très durs dans le choix qui a quand même pu se faire au final. Ce procès Stormy Daniels, il est très important parce que ça va être vraisemblablement le seul procès au pénal qui se tiendra avant les élections de novembre. Parce que on a bien vu les efforts de ces fameux avocats de Trump pour retarder les procédures dans tous les procès auxquels il fait face. Ces efforts ont été globalement assez efficaces.
Bon, ils n'ont pas pu empêcher la tenue du procès Stormy Daniels. Qu'est-ce que c'est, ce procès Stormy Daniels? Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'affaire qui amène Donald Trump devant les tribunaux?
Oui, alors on en a parlé tellement de fois, mais quand même, on va rappeler les faits. Il s'agit de cette actrice du X, Stormy Daniels, avec laquelle Trump avait eu une liaison et à qui il a fait verser 130 000 dollars pour qu'elle se taise. Ces 130 000 dollars, ils lui ont été versés par Michael Cohen, un avocat ou plutôt homme de main de Trump. Et puis, ils ont ensuite été remboursés à Michael Cohen, donc par Donald Trump. En 2017, Trump était entre-temps devenu président. Ces remboursements ont été présentés comme des frais juridiques. Et c'est là qu'il y a un problème, éventuellement un crime, parce que ces remboursements dissimulent alors une violation de la loi fédérale sur le financement des campagnes, une violation de la loi électorale de l'État de New York, plus potentiellement de l'évasion fiscale. C'est en tout cas ce que va essayer de montrer le procureur Alvin Bragg. Concrètement, on parle de 11 chèques, de 11 factures et de 12 entrées dans les livres comptables de Donald Trump. Ça donne au total 34 chefs d'accusation. Alvin Bragg, donc, qui porte l'accusation, va essayer de mettre en lumière plus largement ce qui serait une stratégie du candidat Trump en 2016 pour rechercher toutes les affaires gênantes pour sa campagne et à chaque fois essayer d'acheter le silence des personnes susceptibles de parler à la presse. Il va citer deux affaires dans lesquelles c'est le National Enquirer, un journal lié à Trump, qui a fait les versements. Ce mardi 23 avril, on a vu l'ancien éditeur du National Enquirer, David Pecker, premier témoin de l'accusation, expliquer ce système en termes très clairs et extrêmement gênants pour le camp Trump.
Rappelons que le National Enquirer est un des pires tabloïds américains. Je crois qu'il est à peine dépassé par le Globe. C'est un hebdomadaire avec la plupart d'informations inventées et qui a été très anti-Obama à l'époque et qui a vraiment soutenu la thèse de Trump sur la non-américanité de Barack Obama. Ils ont fait des caisses sur son certificat de naissance.
Absolument. Et les deux affaires dans lesquelles ce journal a fait des versements, c'est celle du portier de la Trump Tower qui racontait que Trump avait eu un enfant illégitime. Il a touché 30 000 dollars. Et la deuxième, c'est l'affaire Karen McDougal, une playmate qui a ou aurait eu elle aussi une liaison avec Donald Trump en 2016 et qui a reçu pour sa part 130 000 dollars.
Est-ce qu'on peut suivre ce procès à la télé ?
Non, il n'y a pas de télé, on a juste les photos sur lesquelles on voit Donald Trump qui a l'air assez sombre et qui parfois s'endort pendant les réquisitoires. Il reste pourtant agressif. Le juge dans ce procès, qui s'appelle Juan Merchan, a même émis un gag order, alors en français on dirait une injonction de silence, à Donald Trump, parce que ce dernier insulte toutes les personnes liées à l'affaire, que ce soit les jurés, les témoins, les procureurs, le juge et leurs familles, il les insulte sur son réseau Social Truth.
Ce réseau d'ailleurs, Social Truth, est le relais de Twitter X dont il s'est fait virer après les événements du 6 janvier en 2021. Est-ce que vous pourriez juste nous ouvrir une parenthèse et nous parler justement de ce réseau qui a fait son entrée en bourse il y a quelques semaines? Et visiblement, les cours ont d'abord explosé puis se sont effondrés. Où est-ce qu'en est Trump avec ce réseau qui, en France, n'est pas très connu?
Oui, Truth Social, donc le réseau social créé par Trump, appartient à Trump Media Technology Group, TMTG, et comme vous le disiez, il a fait son entrée en bourse le 26 mars sur le Nasdaq. Le cours a commencé par monter, puis il a dévissé lorsque les résultats 2023 de Truth Social ont été rendus publics. On s'est rendu compte que ce réseau avait un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars seulement, entre guillemets, pour des pertes de 58 millions, c'est-à-dire 14 fois plus. Mais le cours de l'action de TMTG s'est stabilisé autour de 30-35 dollars depuis quelques jours, ce qui permet à Trump de recevoir des actions supplémentaires pour un montant de 1,3 milliard qu'il touchera d'ici septembre. On l'a appris hier, il fallait que l'action reste plus de 20 jours au-dessus de 17 dollars, ce qui était le cas à partir de hier. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Trump parce que ça renforce son image d'homme d'affaires avisé. Alors même que Truth Social ne marche pas du tout. Mais enfin, c'est les règles qui étaient posées.
Oui, parce que sur Truth Social, Trump n'a que 7 millions d'abonnés actuellement, ce qui est très peu par rapport à ce qu'il avait avant.
Oui, sur X, son compte officiel donc, dont il a été viré avait 87 millions d'abonnés. Il les a toujours, d'ailleurs le compte existe, même s'il n'est pas alimenté.
Oui, car Elon Musk lui a permis de revenir, ce qu'il n'a pas fait.
Il n'a pas fait parce qu'il doit à ses investisseurs sur Truth Social une exclusivité d'activité. Ceci dit, je signale aux auditeurs qu'il existe depuis quelque temps sur X un compte qui reposte systématiquement les messages de Trump sur Truth Social, donc sur X. Alors, c'est pas Trump qui s'en occupe, il n'a pas le droit, mais ce sont très probablement des partisans de Trump. Ce compte, pour l'instant, a moins de 500 000 abonnés, donc ça marche pas encore très bien.
Et donc, une influence très limitée. On va revenir, Laurent, si vous voulez bien, au procès Stormy Daniels. Que risque Trump s'il est condamné?
Au maximum, il pourrait être condamné à 4 années de prison par chef d'inculpation. Ça fait 4 fois 34, c'est-à-dire 136 ans. Mais le juge pourrait décider que Trump fait toutes ses peines de manière fusionnée, donc 4 ans seulement. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que Trump ferait appel, un appel suspensif. Il ferait traîner les choses. Et donc, si Trump doit aller en prison, ce ne sera pas avant très longtemps. On peut aussi penser, et c'est encore une autre solution, qu'il serait condamné à quelque chose avec sursis, donc pas de prison. Pour finir sur ce procès, qui a commencé donc lundi 22 avril, en début de semaine, Trump était furieux parce qu'il y avait très peu de manifestants favorables à sa cause devant le tribunal.
Alors justement, puisque vous parlez de ses partisans, est-ce que ces affaires nuisent à sa cote de popularité auprès des électeurs américains ?
Je vais pas vous surprendre, Christophe, je suis allée voir le site 538 qui agrège les sondages et qui les suit sur le long terme. On voit, en effet, depuis quelques semaines, une légère remontée de Biden dans les sondages lorsqu'on demande aux potentiels électeurs de choisir entre Trump et lui pour l'élection de novembre prochain. Les raisons, elles sont multiples. Il y a d'abord l'économie qui va bien et les électeurs qui commencent à s'en rendre compte. Et puis, il y a en effet le fait que Trump soit sur le banc des accusés, ce qui n'est pas bon pour lui. Pour être tout à fait complet, je voudrais ajouter une troisième raison à cette amélioration du score de Biden, c'est Robert Kennedy. Vous savez, ce troisième candidat indépendant pour les élections présidentielles, celui qu'on appelle le gendre idéal complotiste. Eh bien, on s'est rendu compte récemment qu'il soutirerait finalement plus de voix à Trump qu'à Biden dans l'élection en novembre prochain. Et pire, pour le camp Trump, il semble qu'il reçoive plus d'argent de soutien républicain que de soutien démocrate.
Alors, on ne sait pas si Trump va gagner ou perdre ce procès. En tout cas, il y a une défaite politique pour Trump. C'est ce vote de la loi d'aide à l'Ukraine au Congrès. Il y était opposé. Les MAGA faisaient blocage. Que s'est-il passé pour que ce vote finalement aboutisse?
Oui, ce paquet d'aide à l'Ukraine, c'est un feuilleton qui dure très exactement depuis octobre dernier. Et nous sommes maintenant en avril 2024. L'administration Biden avait donc demandé au Congrès de voter un paquet d'aide militaire à Kiev. Mais les républicains étaient contre. Une partie des républicains soutient l'aide à l'Ukraine, mais une autre partie la refuse, alors soit par isolationnisme, soit parce qu'ils sont carrément pro-russes. Ça, c'est vraiment pour l'aile très très à droite du Parti républicain. En tout cas, en octobre dernier, dans un premier temps, le Parti républicain a exigé que ce paquet d'aide soit lié à des mesures anti-immigration. Mais lorsque les démocrates ont accepté, et donc ont même proposé une loi assez ferme sur les mesures migratoires, eh bien, Trump a alors demandé aux élus MAGA, aux élus républicains d'extrême droite, de refuser de voter ce nouveau projet de loi parce qu'il voulait que le sujet de la submersion migratoire aux États-Unis, je mets ce terme entre guillemets, reste brûlant pendant toute la campagne, pour pouvoir galvaniser son électorat. Ce qui était vraiment une action politicienne très cynique de sa part. Par la suite, les deux sujets, donc l'Ukraine et l'immigration, ont été séparés. Mais alors, on a vu Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants, trumpiste, refuser de mettre ce texte en discussion.
Et du coup, comment les choses se sont débloquées au Congrès ?
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux Mike Johnson a fini par changer d'avis. D'après les observateurs sur place, il aurait été converti, si je peux m'exprimer ainsi, à force d'assister au briefing des agences de renseignement sur la situation en Ukraine.
Ukraine qui va donc normalement recevoir 61 milliards de dollars d'aide.
Oui, alors il y a ces 61 milliards pour l'Ukraine, mais il y a aussi 8 milliards pour Taïwan, 26 milliards pour Israël, dont plus de 9 seront réservés à l'aide humanitaire. Alors le mot Gaza n'est pas précisé dans le texte de loi, mais c'est évidemment ce qui va se passer. On ajoutera dans cette loi des sanctions contre l'Iran et la Russie et une autre mesure dont on a déjà parlé, le fait que l'application TikTok, qui appartient à des Chinois, devra être vendue à des non-Chinois dans les 9 mois qui viennent pour continuer à être disponible aux États-Unis. Au total, 95,3 milliards de dollars, dont 50, c'est-à-dire plus de la moitié, seront réservés à des achats de matériel à des usines américaines. Donc les intérêts américains sont bien servis dans cette loi.
Ce qui est très malin de la part de Biden pour relancer l'économie américaine qui se porte déjà beaucoup mieux. Mais vous avez parlé de ce Mike Johnson qui a réussi à faire basculer le Congrès. Ce que je ne comprends pas, c'est que la majorité là-bas est républicaine et c'est un texte soutenu par les démocrates.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un peu de cuisine parlementaire parce que ces projets avaient été découpés en plusieurs projets de loi différents, un sur l'Ukraine, un sur l'Iran, un sur TikTok, etc. Mais vous avez raison, Mike Johnson a quand même réussi à faire voter la moitié des élus républicains de la Chambre pour ce projet de loi soutenu par les démocrates. On a donc vu les 210 démocrates voter pour, suivi par 101 républicains et 112 républicains votés contre.
Mais c'est dire quoi ça ? Ça veut dire que la majorité républicaine se fissure, se divise ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une partie des républicains qui est pro-Ukraine, mais une autre partie qui est contre. Dans cette autre partie, il y a les isolationnistes, comme par exemple J.D. Vance, ce sénateur de l'Ohio, qui a écrit un édito dans le New York Times très récemment pour dire que l'aide à l'Ukraine était inefficace, qu'il fallait mieux aller aux négociations tout de suite. Et puis, vous avez une autre partie qui est carrément pro-russe. Et là, c'est plutôt des gens comme Marjorie Taylor Greene, cette élue de Géorgie, qui est d'ailleurs attaquée même par les médias conservateurs aujourd'hui, même Fox News par exemple, parce qu'elle serait beaucoup trop pro-Poutine. Je vous donne un seul exemple complètement incroyable. Ces dernières semaines, Marjorie Taylor Greene avait essayé d'imposer un amendement à cette loi sur l'aide à l'Ukraine qui rendrait obligatoire le fait que les écoles de Transcarpathie, une région de l'ouest de l'Ukraine, cesse d'enseigner de force la langue ukrainienne aux enfants de la minorité hongroise qui vivent dans cette région. Comment Marjorie Taylor Greene connaissait-elle cette région de Transcarpathie et cette question de l'enseignement des langues dans cette région? Clairement, c'est un élément de langage qui est directement issu de la propagande russe et ça s'est vu, elle est aujourd'hui critiquée pour ça.
On imagine que Trump n'était pas ravi de ce vote du Congrès, qu'il était encore une fois très en colère.
Là aussi, il y a un développement totalement inattendu. À la suite donc du vote de cette loi à la Chambre des représentants, c'était samedi 20 avril, Trump a tout à coup été beaucoup plus en soutien de Mike Johnson et du passage de cette loi d'aide à l'Ukraine. Sur les quelques médias qu'il a fait depuis, on le voit très mesuré et même défendant Mike Johnson. probablement un peu de pragmatisme de la part de Trump, on le connaît, il est comme ça. Peut-être aussi un respect pour un winner qui vient de remporter quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est une réaction inattendue. En conclusion, je voudrais dire tout simplement que les questions de politique étrangère sont un facteur de division extrêmement important, extrêmement grave pour le Parti républicain. Ces dernières semaines, deux Trumpistes spécialistes de politique étrangère, Matt Kroenig et Dan Negrea, ont sorti un bouquin qui s'appelle « We Win, They Lose », dans lequel ils proposent une thèse qui me semble complètement fausse. Ils défendent l'idée qu'il y a en fait une continuité et une cohérence entre la politique étrangère de Reagan et la politique étrangère de Donald Trump, à la fois sur les questions commerciales, sur les questions de force militaire, sur les questions du rôle moral des États-Unis, tout ça contre la Chine. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui reste pareil. Et à mon avis, c'est complètement faux. Ils ont sorti ce bouquin probablement pour se placer et pour avoir des postes dans une future possible administration Trump.
Encore faut-il que ce Trump soit élu en novembre prochain, ce qui ne semble pas gagner, Laurence. Merci beaucoup pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau New Deal. Au revoir, Laurence.
Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcasts.